Christophe Orbin, qui est responsable du service informatique à l'Université de Savoie.
Voilà, Christophe Orbin, je suis administrateur système et réseau. Je ne suis pas responsable du service.
Pardon.
Mais voilà, donc je...
Il a pris du grade.
Je suis sensibilisé aux problèmes de la sécurité dans le cadre de mon travail. Voilà, donc, je suis quelqu'un de plutôt qui connaît un peu la technique, quoi. Donc je ne suis pas forcément très sensibilisé aux problématiques d'Internet grand public, mais bon, j'ai quelques notions, peut-être que je pourrais aussi apporter des éléments.
D'accord. Ensuite, Laurent Vuillon, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie également, qui travaille au laboratoire de mathématiques.
Non ? Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc, moi, je fais surtout des mathématiques pour l'informatique, hein, et de l'algorithmique. Donc, je m'intéresse à plein de choses. Par exemple, aller chercher de l'information sur Internet, essayer de comprendre le comportement des internautes, des choses comme ça. Voilà, il y a des maths et de l'informatique là-dedans.
D'accord. Et donc notre dernier invité, Florent Lorne, qui est également professeur agrégé à l'Université de Savoie et qui intervient dans un master de sciences technologies d'information et de communication. Je te laisse.
Ouais, pour être plus précis, donc je suis enseignant dans la filière master réseau et télécom à l'Université de Savoie. Je m'occupe principalement des enseignements des réseaux informatiques et des télécommunications. Et entre autres, je fais aussi tout ce qui concerne la sécurité à mes étudiants. Voilà.
Bon. Là, les présentations sont faites. Je peux tout simplement déjà vous donner la parole s'il y a une question. La première est toujours un peu difficile. Si, comme ça, sur les sujets qu'on a pu évoquer, on est... Je vois qu'il y a des gens qui circulent.
Bonsoir. Alors, je suis venue ici dans un café science. Et je m'interroge pour savoir si aujourd'hui on va développer quelque chose de scientifique ou si ça va être simplement sociologique ou roman policier pour déjouer les contre-espions.
Ben, je désigne, allez, peut-être que Florent, qui enseigne en sciences et technologies de l'information et de la communication,
ben en fait,
pourra nous expliquer en quoi.
Questions, hein, parce que ça peut être très scientifique, hein, les réseaux et les télécommunications. Le chiffrement, la cryptographie, c'est, on pourrait dire, une discipline aussi très mathématique. Donc, dans l'ensemble, ce sont des choses, des disciplines. Des sujets et des interactions qu'il y a fortes avec les sciences. Après, on est là aussi pour répondre à toutes les questions, mais on peut répondre à des questions scientifiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je ne sais pas si ça...
Laurent, peut-être ?
Je démarre sur une autre question. On dit que les fabricants et les vendeurs d'antivirus lancent eux-mêmes les virus pour mieux vendre leurs produits. Alors, fantasme ou réalité ?
Les deux. Fantasme pour les éditeurs sérieux. Réalité pour l'immense majorité des petits programmes qui vont apparaître alors que vous naviguez sur Internet, qui vous expliquent sans avoir regardé dans votre ordinateur que vous avez un virus ou qu'il faut cliquer là pour être débarrassé de tel problème. La fantasme pour ce qui concerne les éditeurs sérieux d'antivirus, qui n'ont pas besoin d'en rajouter pour lutter contre les virus, hein, c'est un véritable problème. On considère à peu près que 23 à 25% des PC connectés à Internet sont infectés par un virus. Fantasme dans le sens où la peur des virus est un des meilleurs moyens qui existent pour vous faire télécharger un petit programme qu'on appelle un cheval de Troie, qui, comme le cheval mythologique d'Homère, quand vous allez l'autoriser à s'installer sur votre ordinateur, va en profiter pour vous fournir le mal en même temps que le remède. Voilà, désolé de ne pas pouvoir être plus précis.
Dans la foulée, dans la même question, dans la foulée, Avast et Avira sont des antivirus très connus. Avast très discret et il fait, semble-t-il, son travail, j'en sais rien, j'y connais rien. Et Avira, par exemple, parce que j'ai eu un virus, évidemment, j'ai fait exactement ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a proposé de dire « Oula, vous avez un virus, j'ai cliqué dessus, ça m'a foutu le bazar ». Et j'ai donc donné ça à un réparateur parce que je ne pouvais plus m'en sortir. Et il m'a remis Avira dessus en levant Avast. Et Avira me propose sans arrêt des nouveaux trucs en disant abonnez-vous, machin, etc. Protégez-vous mieux, etc. Est-ce que finalement la protection tout public que je ne paye pas n'est-elle pas quasiment aussi bonne que celle que je paierais si je ne suis pas un professionnel ?
Répondre dans les micros.
Moi, je voulais juste répondre sur une partie. Il faut, les virus, c'est juste des programmes informatiques qui sont au départ de l'histoire de l'informatique très simples, mais qui ont une complexité croissante. Parce qu'il y a des gens qui prennent un ancien virus et qui rajoutent des fonctionnalités ou qui ont vu qu'il y a un antivirus qui est très efficace parce que ils ont, l'antivirus repère la signature du virus. Et donc... la personne essaie de contrer les antivirus. Donc c'est comme un peu la course à l'armement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il y a des gens qui proposent des virus et d'autres personnes qui proposent des antivirus. Et il y a une escalade entre les deux. Voilà. Alors après, savoir faire la différence entre des antivirus qui sont gratuits et d'autres qui sont payants, c'est sûr que les antivirus payants, a priori, ils ont pas mal de R&D, de recherche et développement, et donc ils vont chercher, ils ont pas mal d'équipes qui vont essayer de repérer les virus, d'essayer de trouver aussi des failles, et donc et de réparer les failles informatiques. Et donc il y a toute une économie là-dessus. Mais il y a aussi des vrais professionnels qui ont une très forte connaissance de l'informatique. Et donc, payer un antivirus, pour moi, c'est assez important parce que ça permet de mieux comprendre le monde informatique et puis essayer de mieux se protéger. Voilà. Mais je sais pas.
Je suis pas tout à fait d'accord avec la fin de la réponse. À mon avis, si je peux me permettre, il y avait deux questions dans votre question. Il y avait quel antivirus faut-il prendre aujourd'hui et comment fonctionne l'économie du gratuit ? Est-ce que quand je ne paye pas en argent, est-ce que c'est pas moi qui deviens le produit via la publicité ? Sur le premier point, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où je pense que les antivirus gratuits peuvent être tout à fait d'aussi bonne facture que les antivirus payants. Par exemple, la société Avast est devenue le plus gros éditeur antivirus en étant le premier à offrir gratuitement son antivirus au grand public. La version gratuite d'Avast fonctionne exactement pareil que la version payante pour tout ce qui est partie antivirus. Elle est donc de même qualité. Avast aujourd'hui, parce qu'il fournit des produits gratuits, a réussi à avoir une base installée de clients qui est telle que c'est le premier chercheur en sécurité informatique. Par contre, effectivement, généralement, et c'est un peu ce que vous racontiez, c'est que ces antivirus ont tendance à, en offrant un point d'entrée gratuit, à vouloir se rentabiliser en vendant des options payantes et à abuser carrément sur la publicité, sur le fait de jaillir toutes les 30 secondes en vous disant « regarde-moi, regarde-moi, achète-moi, je suis encore meilleur si je suis payant ». Ça peut être très énervant. Pour répondre à la question que j'ai posée moi-même, quel est le meilleur antivirus ? C'est une question à laquelle je ne prononcerai pas de marque, puisque ça dépend des années. Il y a dans le monde informatique, tous les informaticiens connaissent un antivirus qui était connu comme le loup noir, qui était la risée de la profession, parce que c'était une véritable passoire. C'était Norton Antivirus, c'était vraiment le truc dont tout le monde se moquait, parce que c'était une véritable passoire. Norton, dans sa dernière version, est pratiquement premier dans tous les tests de qualité. ça veut dire que la réponse à tel virus, tel antivirus est bon, tel antivirus n'est pas bon, change tous les ans. Donc ne faites surtout pas l'erreur de vous faire un avis une fois et de le garder à vie. Pour la deuxième partie de la question, quand c'est gratuit, est-ce que c'est pas moi le produit ? Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai pour les antivirus, c'est vrai pour plein, plein d'autres choses dont on reparlera sûrement au cours de la soirée. Juste une petite provocation. Personnellement, j'utilise pas d'antivirus, je suis sous Linux. Et c'est gratuit.
Sur le stockage des données. C'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité de stocker sur des serveurs distants, comme on dit, dans le nuage. Et je voudrais savoir, quand on décide de stocker ces données, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer, justement, d'une certaine confidentialité, s'assurer qu'effectivement, on a mis tout de notre côté pour... que nos données ne soient pas, c'est sauvé sur des serveurs, on ne sait pas où ils sont localisés forcément. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux gens comme moi pour le stockage de données en toute sécurité? Voilà.
Parce que je suis un peu sensibilisé à cette question-là. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, à savoir que je pense sur Internet, rien n'est gratuit. Hein, et c'est vrai que souvent... L'apparence de gratuité cache certainement quelque chose. Je suis assez d'accord aussi avec la maxime qui dit que si c'est gratuit, c'est moi le produit. C'est le cas aussi un peu, je pense, avec ces services de stockage de données en ligne. Comment être sûr de sécuriser à 100% ces données? Je n'ai pas de réponse toute faite. Personnellement, je serais très méfiant vis-à-vis de ce genre de service. C'est vrai que c'est sous couvert d'un service très pratique, très facile à utiliser. Ça cache beaucoup de choses. J'ai en tête certains fournisseurs de services, qui, je pense que c'est très important de lire les conditions des services proposés. Et certains ne se cachent pas qu'ils utilisent les données des utilisateurs. L'actualité aussi nous montre que ce type de services sont faillibles, puisqu'on a retrouvé, c'était en octobre dernier, où on nous annonce que des millions de comptes de stockage de données, type Dropbox ou autre, étaient disponibles en ligne, avaient été compromis. Je considère qu'il faut être très méfiant vis-à-vis de ce genre de services. Sur la localisation des données aussi, donc savoir que les données ne sont pas hébergées sur le territoire, ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de conflit, en cas de extrême, c'est sûr. Et carrément aussi, il y a eu des cas récemment dans l'actualité qui ont montré que des données étaient carrément publiées librement ou publiquement sur le net, des données qui étaient présentes dans ce type de service. Voilà. Donc certainement à utiliser avec beaucoup de. Mon avis, c'est que ce qu'on met sur ce type de service, il faut considérer que c'est entre guillemets perdu. Enfin, ou en tout cas on ne peut pas mettre de données confidentielles, personnelles ou voilà. Je pense aussi une image qui est importante, ce qu'il faut savoir, c'est que un collègue me disait il y a deux jours encore, je ne mettrai jamais les photos de mes enfants sur le net, sur ce type de stockage par exemple, parce que je sais très bien que je ne pourrai jamais leur garantir que cette photo sera un jour effacée. Et je pense que c'est le cas. Voilà. C'est typiquement, les données qu'on met sur Internet, même si on les efface, si on les vide, c'est clair qu'elles ne sont pas effacées et qu'elles sont toujours quelque part. Dans le micro, excuse-moi. Alors, une solution, oui, c'était effectivement une chose. C'est, le chiffrement peut être une solution, effectivement.
Pouvoir chiffrer par des... Il y a des outils pour ça.
Je ne suis pas utilisateur, mais on peut utiliser des conteneurs chiffrés ou ce genre de choses qui permettent de chiffrer les données, effectivement. Je ne sais pas, peut-être vous avez d'autres éléments à ajouter. Laurent.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Juste un bémol, quand vous parlez de sécurité des données, qu'est-ce que vous entendez par sécurité? Est-ce que c'est vous prémunir contre la perte des données ou est-ce que c'est vous prémunir contre la dispersion de ces données et l'utilisation par d'autres? Et malheureusement, les deux réponses ne sont pas toujours les mêmes. Si votre préoccupation, c'est de vous prémunir contre la perte des données, effectivement, les mettre chez Google, chez Facebook, chez Dropbox, chez n'importe lesquels de ces services qu'on connaît tous, c'est un excellent moyen. Ils sont extrêmement performants, ils ont des centaines et des centaines de sauvegardes, et en cas où ils ont des problèmes, de toute façon, la NSA rajoute une couche de sauvegarde par derrière. Donc je vous assure que si vous confiez une image à Facebook, à Google ou à tous ces gens-là, elle ne sera jamais perdue. Si par contre, ce que vous appelez sécurité des données, c'est justement éviter que d'autres mettent leur gros doigt dessus, là, il y a une solution qui n'a pas été évoquée, qui s'appelle l'auto-hébergement, ou l'hébergement payant aussi. Les mots ont l'air compliqués comme ça, mais ce n'est pas très compliqué. Vous allez chez quelqu'un qui va vous louer un ordinateur. Je dis bien louer parce que c'est exactement comme quand on loue un appartement, on a des droits. La loi nous protège, on a des droits. Ça coûte la somme faramineuse de 2 euros par mois, par exemple chez OVH, qui est un Français, qui est le plus grand hébergeur d'Europe, où pour 2 euros par mois, vous aurez un petit bout d'un ordinateur que vous ne verrez jamais parce qu'il est dans un de ces grands hangars qu'on appelle les data centers, mais peu importe, la loi vous dit qu'il est à vous et que seul vous avez le droit d'aller voir dedans. Et après, avec ce petit bout d'ordinateur, vous pouvez mettre vos photos en ligne dessus. Alors, le problème, c'est que l'ordinateur, il est vendu nu, c'est-à-dire qu'il faut installer d'abord un petit programme pour pouvoir gérer ces images. Mais il existe aujourd'hui des programmes qui s'installent vraiment en 3 clics. Ce n'est pas plus compliqué qu'installer un programme sous Windows. Je pense notamment à un logiciel open source qui s'appelle PYDIO, P-Y-D-I-O, pour l'acronyme de Put Your Data in Orbit, qui est un logiciel open source, on viendra sur ce thème au cours de la soirée, j'en suis sûr, qui s'installe vraiment en 3 clics de souris, qui est aussi facile à utiliser après que tous les Dropbox, que tous les tout ça, c'est-à-dire qu'on met ses photos, on met ses fichiers par un simple glisser-déposer. Ils sont hébergés sur un serveur qui est sauvegardé par le prestataire et sur lequel, je vous dis, vous avez un contrat qui garantit que seul vous avez l'accès. Si en plus vous êtes en mode parano, vous pouvez en plus chiffrer vos données. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que Florent l'expliquera beaucoup mieux que moi, comment faire. Mais je veux dire, l'auto-hébergement, c'est-à-dire la propriété juridique des données, change tout. Internet peut aussi être un outil d'émancipation dans ce cas-là.
Excusez-moi, parce que vous avez parlé d'OVH, c'est-à-dire là, on achèterait, on louerait, parce que OVH, si je crois bien qu'ils ont des... C'est européen, mais ils ont des serveurs qui sont pas forcément... Enfin, ils sont tous localisés en Europe, parce que je sais qu'il y en a au moins deux.
C'est une société française qui a des data centers, donc des serveurs, comme vous dites, localisés principalement en France. Ils en ont aussi au Canada, en Allemagne et au Luxembourg.
Ben justement, donc moi, j'aimerais pas avoir mes données sur un serveur au Luxembourg.
Vous choisissez. Comme ça. Donc, vous choisissez. Il y a un menu très simple qui vous demande où vous voulez être hébergé. OVH, qui est l'acronyme de On vous héberge, 3 lettres. OVH. Je n'ai aucune action chez OVH, je précise, au cas où il y avait un doute.
Alors, juste pour rebondir, dans les laboratoires, quand on fait du calcul numérique sur des données sensibles, on le fait sur un ordinateur qui est débranché du réseau. Donc, c'est un ordinateur sur lequel on travaille. Alors, on peut toujours récupérer les données par des clés USB, voilà. Mais surtout, souvent dans les contrats, quand c'est sensible, on nous dit qu'il ne faut pas que l'ordinateur soit branché au réseau. Voilà. Donc, c'est une des façons de faire aussi. Mais c'est radical, mais
c'est sûr. Mais ça ne résout pas le problème de la sauvegarde.
Alors, la sauvegarde, on peut la faire soi-même avec des disques externes. Et puis, voilà. Mais ça demande de travailler. Alors, une réaction ?
Non, mais dans les laboratoires, on peut demander à la DSI aussi. sinon, juste, j'avais pas eu le temps de revenir. Enfin, juste sur le premier point, quand vous dites que rien n'est gratuit, il y a des choses quand même qui sont gratuites sur Internet. Il y a des choses où, par exemple, je prends l'exemple de Wikipédia. Je pense pas que la personne qui a fait Wikipédia gagne de l'argent, exploite quelque soit de nos données personnelles. Enfin, il y a quand même, voilà. Actuellement, ils cherchent des dons pour pouvoir continuer à croître. Mais globalement, il y a aussi beaucoup, vous êtes sensibilisé à ça, quand on développe du logiciel libre, on le fait aussi gratuitement, d'un certain côté. Donc, c'est aussi un espace de partage et c'est aussi un espace d'échange qui est Internet. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus voir tous les côtés un peu négatifs, hein, entre guillemets. Sinon, en ce qui concerne l'hébergement, ouais, il est possible de chiffrer ces données. Mais par contre, ce n'est pas forcément à la portée du premier venu. Ça va complexifier énormément les choses. Si on veut faire des sauvegardes, les logiciels qui font des sauvegardes sont des logiciels qui ne sont pas forcément de prime abord évidents à configurer. Si on rajoute par derrière du chiffrement, il va falloir, quoi qu'il arrive, choisir parmi des algorithmes de chiffrement la méthode qui est la plus adéquate, ce qui n'est pas forcément évident. Après, il va falloir se souvenir du mot de passe ou de la clé de chiffrement qu'on a mis. Lorsque on fait des sauvegardes, assez souvent, les logiciels ils sont conçus par défaut pour sauvegarder que les nouveaux fichiers, les différences entre l'ancien fichier et le nouveau fichier. Lorsque c'est chiffré sur la destination, le logiciel ne sait pas s'il y a une différence forcément. Donc ça complique un petit peu les choses au niveau de ce travail-là, et au niveau de la restauration aussi, ça va compliquer les choses. Donc, c'est des aspects aussi dont il faut tenir compte. Après, il y a des choses qui, pour moi, ne me posent pas de problème personnellement si c'est en ligne. Il faut savoir aussi faire le tri dans ces données et se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui pourrait être utilisé, qu'est-ce qui pourrait ne pas être utilisé. Et savoir si, d'abord déjà ça vaut le coup d'être sauvegardé, parce que des fois on a plutôt tendance à tout sauvegarder et après à faire un tri a posteriori. Et dans un deuxième temps, savoir est-ce que c'est des informations qu'on pourrait qualifier de entre guillemets sensibles. Par exemple, moi quand je fais des cours à mes étudiants, les sauvegarder chez Google, ça me pose aucun problème. S'ils ont envie de regarder mes cours, Google, d'indexer mes cours, c'est très, très bien pour eux. C'est pas quelque chose que j'estime comme sensible, comme information. Peut-être mes fiches de paye ou mes ordonnances que j'aurais potentiellement scannées, non, ça je le ferai pas.
Sur l'auto-hébergement, vous avez...
Devant Internet, je suis devenu il y a quelques années paranoïaque et je m'étais dit jamais je livrerai les codes de ma carte de crédit. Sauf que quand SNCF me dit « je vous livre vos billets à la maison si vous me donnez vos codes de crédit », je me suis dit à la SNCF « je veux bien lui donner ». Et puis je voyage à l'étranger, quand les hôtels me disent « si vous voulez une chambre, il faut me donner votre numéro de carte de crédit », soit je ne lui donne pas, soit je n'ai pas de chambre. Donc j'ai donné mon numéro de chambre à des hôtels à l'étranger, alors que ce soit en Europe ou hors d'Europe d'ailleurs. Donc... Et puis les cas de numéros de carte de crédit, ils s'en vendent sur Internet. Pas les miennes, enfin pas jusqu'à présent, mais ça peut arriver. Comment je me protège contre ça?
Juste pour information, la plus grande attaque à la carte de crédit a été faite en dehors d'Internet. La plus grosse attaque à la carte de crédit, c'était des groupements, entre guillemets, de mafieux aux États-Unis qui géraient des pompes à essence. Et qui, lorsqu'on donnait la carte bleue, avait un petit appareil photo qui était sous le comptoir, qui prenait en photo la carte bleue et qui récupérait le numéro de carte bleue. Donc déjà, juste pour vous sensibiliser au fait qu'il y a plein de choses qui existent, d'accord, et que Internet, globalement, est plutôt bien sécurisé. Enfin, moi, je trouve. Et qu'il y a plein d'autres moyens de récupérer des numéros de carte bleue facilement, sans trop de difficultés, pour quelqu'un qui a envie de faire ça. Après, lorsqu'on donne un numéro de carte bleue, moi, ce que je trouve qu'il faut vérifier, s'il y a des bonnes pratiques, la plupart du temps, votre navigateur, il va vérifier que le site sur lequel vous connectez, il correspond bien à ce qui dit qu'il est. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez sur la SNCF, vous allez donner votre numéro de carte bleue, le navigateur, pour vous, il fait ce travail-là. Des fois, le navigateur, il fait ce travail-là et il constate qu'il y a un problème. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas cliquer. Il vous dit qu'il y a une erreur qui peut se poser. Il y a une erreur on appelle ça une erreur de certificat. Et dans ce cadre-là, le navigateur, il vous signale, mais il ne vous empêche pas. Si vous avez envie, vous pouvez continuer. Et donc là, c'est là, surtout là où vous prenez un risque. Après, comme vous dites, de nos jours, on est obligé de donner son numéro de carte bleue. Sinon, pour moi, c'est quasiment infaisable, comme vous dites, de réserver un billet de train, de réserver un billet d'avion, dans ces aspects-là. Donc, il y a des bonnes pratiques dont il faut tenir compte, qu'il faut connaître. Après, à côté de ça, je ne sais pas.
Je rajouterai pour les numéros de carte bleue. On peut même se faire piquer son numéro de carte bleue sans qu'elle ne quitte jamais votre portefeuille. Il existe des logiciels qui génèrent au hasard des numéros de compte qui sont cohérents. Et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez être tiré au sort. Donc, ce n'est pas la peine d'être parano en matière de son numéro de carte bleue, dans le sens où, malheureusement, même si vous êtes l'homme le plus prudent du monde, vous pouvez perdre à ce petit jeu-là. Bonne nouvelle, les banques jouent bien le jeu. Les banques, pour instaurer la sécurité dans le commerce en ligne, remboursent rubis sur l'ongle, sans discuter, si vous contestez un achat fait en ligne. Attention aux petits malins, il y a systématiquement une enquête de gendarmerie qui est déclenchée derrière, et si vous vous faites livrer chez vous, je ne vous prédis pas un grand avenir dans la profession. Mais par contre, bonne nouvelle pour l'immense majorité des gens honnêtes, si en épluchant votre relevé de carte bleue, vous constatez un achat que vous n'avez pas fait, qui a été fait en ligne, contestez-le auprès de votre banque, elle remboursera quasiment immédiatement.
Juste, même si c'est une remarque, si vous pouvez pas prendre le micro.
Juste une anecdote à ce jeu-là. Il y a deux petits génies qui ont joué avec un logiciel pour générer des numéros de carte bleue comme ça en début d'année dernière. Début 2013. Et apparemment, ils n'ont vraiment pas de bol, puisqu'ils ont généré un des numéros de compte qui appartenait à Nicolas Sarkozy. Inutile de vous dire qu'ils ont été arrêtés en moins de 48 heures, ces deux-là. Dernière chose pour les numéros de compte, je pense que le plus grand danger n'est pas au niveau de l'utilisation du numéro de compte lui-même sur un site sécurisé ou suffisamment sécurisé. Je pense qu'il est dans l'utilisation de tous ces sites où on va enregistrer notre numéro de compte. Par exemple, si vous êtes utilisateur d'Amazon ou de eBay, ces sites-là sont très très bien faits. Et il vous propose, pour éviter de vous embêter, de mémoriser une fois pour toutes votre numéro de compte. Autrement dit, vous n'avez plus besoin, quand vous refaites un achat, un deuxième achat ou un troisième achat sur Amazon ou sur eBay, de vous embêter à ressortir votre carte bleue de votre portefeuille, à retaper le numéro à 16 chiffres, la date de péremption, le numéro 3 chiffres qu'il y a derrière, etc., etc. Ils l'ont mémorisé pour vous. C'est-à-dire que la simple connaissance de votre mot de passe d'accès à votre compte suffit à payer en ligne avec votre carte bleue. Et comme l'immense majorité des gens utilisent le même mot de passe pour tous les sites web, vous comprenez où est la faille. Donc plutôt que de vous préoccuper de votre numéro de carte bleue, préoccupez-vous d'utiliser des mots de passe longs et surtout différents sur tous les sites web. Oui, je vois madame qui soupire. Oui, c'est un véritable problème parce que ça demande une discipline. Ça demande une discipline et malheureusement, c'est le prix à payer. Après, il y a des logiciels qui peuvent vous aider aussi.
Oui. Je voudrais
Amazon,
juste
prenez l'habitude de supprimer l'enregistrement de votre carte. Moi, c'est ce que je fais personnellement parce que j'achète aussi des choses en ligne. Bon, mais c'est vrai que c'est une contrainte, mais c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit.
Je voudrais vous demander ce que signifie chiffrer pour être sûr d'avoir compris ce que vous disiez tout à l'heure. Chiffrer, c'est coder. Chiffrer des fichiers chez des hébergeurs, ça signifie quoi?
Et de façon générale, en fait, tout ce qui est cryptographie, en fait, quand stocker des données chiffrées, mais aussi un protocole de transfert sécurisé, tout ça, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et puis après, on prendra des questions par ici. Parce que
c'est déjà de répondre pour le chiffrement. En fait, c'est... juste donc pour faire simple, on pourrait dire qu'à partir d'un document qui est en clair, qui est compréhensible, qui est lisible, on va le passer dans un algorithme, dans une procédure qui, lorsque qui va nous générer un autre document, et lorsqu'on va regarder ce document, on pourrait considérer que c'est comme si c'était aléatoire. On n'arrive pas à retrouver, il est impossible de retrouver quelques fragments du document original tel qu'il était à l'origine. Donc ça, c'est une procédure, on dit chiffré, on dit crypté. C'est transformer le document d'une certaine façon, qu'il soit, même s'il est lu par quelqu'un d'autre, s'il est capturé, qu'il soit incompréhensible par la personne. On dit, on génère quelque chose qui est quasiment pseudo-aléatoire. On dit pseudo-aléatoire parce que avec la même clé de chiffrement, lorsqu'on va le déchiffrer, on va pouvoir générer le texte d'origine.
Dans le micro.
Alors, au niveau, par exemple, de l'hébergement, au niveau de l'hébergement, lorsque si vous choisissez une solution d'hébergement classique, on va dire, pour stocker vos fichiers, il n'y a pas de chiffrement. Par contre, lorsque Amazon va stocker les numéros de carte bleue, lorsque vous faites une transaction, ça c'est sûr, lorsque vous faites une transaction, lorsque vous fournissez votre numéro de carte bleue, toutes les données qui vont circuler sur Internet lors de cette transaction vont être chiffrées. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais quand vous êtes sur un site, vous avez le HTTP qui se transforme en HTTPS à la fin, qui veut dire sécurisé. D'accord ? Et à partir du moment donné où vous avez le HTTPS, vous avez des algorithmes, donc des mécanismes qui vont permettre de rendre incompréhensible le flux de données qui circule.
Alors juste pour ajouter des éléments, en fait, chiffrer, c'est utilisé très souvent donc pour les transactions bancaires, mais aussi vous pouvez choisir de chiffrer tout votre disque dur, donc tout votre ordinateur, ou alors une partie du disque dur que vous trouvez sensible. Et puis, en fait, le chiffrement, ça sert aussi dans l'armée. Hein. Dans tous les conflits, on a utilisé du chiffrement. César en a utilisé à son époque. Actuellement, on sait que c'est un outil qui est intéressant soit pour les gens, mais aussi pour les États. Alors, il faut raconter que, par exemple, aux États-Unis, les talkie-walkie des policiers sont chiffrés. Sauf qu'il y a un bouton pour mettre en place le chiffrement. Et on pense, il y a une étude qui dit que 10% des discussions entre policiers sont non chiffrées. C'est-à-dire que l'outil est en place pour toute la police, mais l'usage fait qu'il n'y a que 90% qui est vraiment chiffré. Donc si on écoute le canal, on ne comprend rien. Mais il y a quand même 10% qui est non chiffré, parce qu'ils ont fait juste une erreur, et ils n'étaient pas très attentifs, et voilà. Donc ça veut dire que vous avez des outils à disposition, mais de toute façon, il y a une marge d'erreur. Vous pouvez mal les utiliser, ou vous pouvez oublier l'utiliser, ou alors il y a des gens qui peuvent aussi essayer de casser votre chiffrement. Donc vous voyez qu'il y a plein de degrés possibles. Et puis on pourra discuter des États. Les États et les services secrets n'aiment pas trop les communications chiffrées entre personnes, parce qu'il peut y avoir des gens malveillants qui communiquent entre eux. Donc les États ont besoin de savoir déchiffrer. Alors déchiffrer, c'est très très dur mathématiquement, et donc ils ont mis en place des procédures pour passer outre et pour quand même essayer de comprendre ce qui se dit entre les personnes. Je ne sais pas si on va parler de choses comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, la NSA, enfin, et puis les services secrets, même en France, ils ont mis beaucoup d'argent pour essayer de comprendre comment les gens cryptaient. Alors, si on fait des études de cryptage, les maths pour crypter, eh ben, il faut absolument le déclarer donc, au niveau français, et dire que le déclarer à l'armée. Et puis, un jour, est apparu un chiffrement, donc c'est le chiffrement RSA, qui est très efficace, et ça a été un chiffrement public. Les gens ont donné leur algorithme de chiffrement, et les États sont devenus, n'étaient pas contents, mais pas contents du tout, parce que ça donnait l'occasion à tout le monde de pouvoir chiffrer. Voilà. On va peut-être en reparler après.
Simplement, enfin, je sais qu'il y a des mots comme clé publique, clé privée qui sont apparus avec ça. c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'on me donne de quoi chiffrer un message, mais moi-même, je ne peux pas le déchiffrer. C'est ça, non ? Plus ou moins. Ou je dis des bêtises, enfin, si on peut avoir quelque chose.
Il y a deux grandes familles de chiffrement. Il y a ceux qu'on appelle les chiffrements symétriques ou chiffrements à clé privée, et il y a ceux qu'on appelle les chiffrements asymétriques ou chiffrements à clé publique. Pour utiliser des analogies, pour surtout pas faire de mathématiques, chiffrer un message avec un chiffrement à clé privée, c'est l'enfermer dans une boîte en fer dont je ferme la clé avec la serrure avec une clé. Cette boîte en fer qui contient mon message, elle peut être publique, c'est-à-dire que les méchants peuvent tomber sur la boîte, tant qu'ils n'ont pas la possession de la clé, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Et ne peuvent les ouvrir que les gens qui ont une clé identique à la mienne. Ça veut dire qu'on a dû se rencontrer avant pour se mettre d'accord sur une clé. Une clé comprend des mots de passe. On a dû se rencontrer avant pour se mettre d'accord sur un mot de passe. Alors pour des gens qui peuvent se rencontrer physiquement, c'est bien pratique, mais pour des gens qui habitent à l'autre bout de la planète, c'est pas super efficace. D'où effectivement l'avancée dont tu parlais, qui est le chiffrement à clé publique, où là, on a réussi un tour de magie, c'est qu'on arrive à, si vous voulez, la boîte, elle n'est plus fermée par une clé, mais elle est fermée par un cadenas. Un cadenas, c'est un objet absolument génial, parce qu'il est en deux parties. Il y a une clé et un cadenas. Le cadenas, il suffit de le clipser pour qu'il soit fermé. On n'a pas besoin de la clé pour le fermer. Donc, pour communiquer avec ce système-là, en fait, l'idée, c'est que si jamais je veux que quelqu'un m'envoie un message chiffré comme ça. Je vais acheter un cadenas au magasin de bricolage du coin, je l'ouvre, je garde la clé sur moi dans la poche et je laisse le cadenas sur le domaine public. Et il y a des annuaires de cadenas, exactement comme il y a des annuaires téléphoniques, où si quelqu'un veut m'envoyer un message chiffré, il va aller regarder dans un annuaire, il va trouver mon nom et en face du nom, il va recopier mon cadenas. C'est une série de chiffres, hein, c'est un petit fichier qui contient une série de chiffres. Et avec ce cadenas, il va chiffrer le message, c'est-à-dire qu'il va mettre la lettre dans la boîte en fer, il va clipser le cadenas pour le crypter. Il n'a pas connaissance de la clé est restée dans ma poche. Cette boîte fermée par un cadenas, il n'y a que moi au monde qui pourrait l'ouvrir. C'est ça le chiffrement asymétrique. Et effectivement, ce que tu disais a tout à fait raison, c'est que les gouvernements ont un besoin, une envie maladive d'écouter les correspondances du peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Révolution française, quand je vous souvenais de vos cours d'histoire de la Révolution française, pardon, mais on nous a raconté qu'il y avait les cahiers de doléances qui avaient circulé en France pendant les deux ans précédents, où Louis XVI espérait calmer la populace avec ses cahiers de doléances, l'équivalent de la pétition sur Internet, hein, où les gens écrivaient dans les cahiers tout ce qui les défrisait, tout ce qui les dérangeait. Les historiens ont bien sûr compilé ces cahiers de doléances pour voir ce qui revenait le plus souvent. Et parmi les trois choses qui revenaient le plus souvent, il y avait le non-respect de la correspondance privée. Savez-vous qui avait inventé la poste dans sa forme actuelle ? Richelieu. Il avait inventé autre chose en même temps que la poste centralisée, c'est-à-dire le fait d'avoir une organisation centrale pour l'acheminement du courrier. Il a inventé un cabinet noir qui ouvrait les lettres et qui lisait les lettres. Le non-respect de la correspondance privée est un problème récurrent dans l'histoire de l'humanité. Et le jour où, effectivement, Phil Zimmermann a inventé un programme utilisable par le grand public qui permet à Monsieur Tout-le-Monde d'écrire de façon cachée à un autre Monsieur Tout-le-Monde, bah, les gouvernements ils ont fait un peu la gueule. Et Zimmermann, il a pris cher. Alors qu'il n'avait rien fait d'illégal. Mais il a fait de la tôle.
Revenir à ce qui a été dit de remboursement rubis sans langue et rapidement par une banque d'une fraude. Et ce n'est pas le cas. Et j'en ai fait l'expérience. Et c'était une petite somme. Il s'agissait de 9 euros. Et ça m'a pris 8 mois pour obtenir que la banque me repaie ces 8 euros. Et ils m'ont dit, on fait un geste commercial. Ils ont dit, ce n'est pas qu'on doive le faire, mais on est tellement gentil qu'on vous redonne ces 8 euros. Et ça a pris 8 mois. Et c'est déplorable, et je peux donner le nom de la banque, c'est Boursorama, qui est une banque en ligne. Voilà. Alors ce que vous dites est faux. Alors, la réponse, si la somme est petite, moi j'ai passé en supposant que d'une manière mon temps vaille quelque chose, j'ai passé beaucoup plus d'argent pour obtenir ces 8 euros, qu'on me rembourse ces 8 euros, que 8 euros.
Voilà. J'en déduis donc que la période bénie où les banques essaient de gagner la confiance du public est terminée.
Non, c'est de la publicité. On vous dit qu'on rembourse le...
Non, je l'ai expérimenté. C'était effectivement il y a assez longtemps, il y a 7 ans, je l'ai expérimenté.
Parfois, oui.
Alors, je reconnais que c'était il y a 7 ans et que mon information est un peu périmée. Mais je l'ai expérimenté, donc c'était vrai. Et alors, je ne sais pas si on peut faire une généralité de nos deux expériences, mais il est possible aussi, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour gagner la confiance du client, et peut-être que maintenant qu'Internet est rentré dans les mœurs, ils sont un peu plus réticents. Mais après, ce ne sont que deux expériences, et je ne suis pas sûr qu'on puisse les généraliser l'une comme l'autre.
Moi, je voudrais...
Attendez, excusez-moi.
Je voudrais apporter un témoignage opposé. J'ai été aussi victime d'un piratage de ma carte Visa, et la banque m'a effectivement remboursé Rubis sur Ongle. Il s'agissait de 600 ou 700 euros, je ne me souviens plus. Alors c'est la caisse d'épargne. Voilà. Et en fait, le piratage de ma carte n'était pas dû à Internet, effectivement. Après, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais fait avec cette carte. Et c'est une fois, à Val d'Isère, j'avais loué des skis, j'ai donné ma carte, on me l'a embarqué pendant 5 minutes, et on me l'a rendu. Il est évident que la personne qui a fait ça avait pu noter le numéro et aussi les 3 chiffres de sécurité derrière. Et quelques semaines après, ce n'était pas immédiat, il y a des achats qui ont été faits à mon nom, quoi, sur mon compte. Des achats, j'ai vu débiter sur un site anglais, un site de genre Fnac, si vous voyez, en anglais, visiblement l'achat d'un ordinateur ou quelque chose comme ça. Voilà. Et quand je me suis aperçu de ce débit, donc la banque n'a fait aucune difficulté pour me rembourser.
Voilà. Je fais un peu monter les enchères. Moi, j'ai eu 2500 euros qui ont été pompés sur mon compte. Ça a duré 8 mois, le schmilblick. Tous les 15 jours, on ponctionnait une centaine d'euros. Et je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai 2 comptes à gérer et que ça me gave de gérer mes comptes, c'est vrai. Donc maintenant, je suis très vigilante et je vérifie. Parce qu'à aucun moment, mon banquier m'a dit « Tiens, vous êtes allée en Suède. Tiens, vous voyagez beaucoup, madame. » J'étais Stockholm, Hambourg, et c'est comme ça que je l'ai remarqué d'ailleurs. Parce que comme je ne voyage pas en ce moment, si ça avait été des comptes en France, peut-être que je ne l'aurais pas vu tout de suite. Mais j'ai glandé pendant 2 bonnes heures à l'hôtel de police pour qu'on me reçoive. Et puis après, j'ai attendu encore un mois pour être remboursée. Donc, rubis sur l'ongle, oui et non, hein. Et la banque ne s'est jamais rendue compte de rien. Il n'y avait aucune alerte.
Alors, juste pour répondre à cette question-là, en fait, les données qu'on génère par sa carte bleue, elles peuvent être étudiées par la banque. Et s'ils ont un modèle de comportement, ils peuvent comprendre que ce n'est pas vous qui utilisez la carte. Mais sauf que toutes les banques ne font pas ça. Et ça demande de l'argent, ça demande pas mal d'investissements informatiques, de l'analyse de données. Et puis, vous voyez qu'on analyse vos données privées pour essayer de vous donner un service en plus. Et c'est toujours à la limite. Donc, voilà, certaines banques ne font pas ça. Et d'autres décident d'arrêter votre carte si vous allez en Espagne pour la première fois de votre vie et que voilà, vous étiez resté toute votre vie en France. Et ils arrêtent. Donc il y a 2 poids, 2 mesures.
C'est comme ça qu'on tombe en panne d'essence en traversant la Belgique, merci.
Voilà, donc c'est toujours une question d'analyse de données. Qu'est-ce qu'on fait de vos données? Est-ce que c'est dans votre intérêt ou est-ce que c'est dans l'intérêt de la banque ou d'autres personnes? Ce sont des bonnes questions.
Mais je crois qu'effectivement, ça va être une des morales de ce soir. Ça va être qu'est-ce qu'on est prêt à échanger contre un peu d'argent ou contre un petit service en plus? Jusqu'où on est prêt à aller, et surtout, est-ce qu'on a conscience de ce que ça nous coûte?
Oui, je voudrais changer un peu de sujet, si je peux. Mon souci, c'est l'archivage. C'est pas tellement l'hébergement, c'est à long terme, qu'est-ce que l'informatique va nous offrir pour archiver, puisqu'on veut supprimer le papier. Donc, comment on va archiver nos données sur un long terme? Qu'est-ce que vous proposez comme moyen informatique sûr pour archiver nos données?
Oui, la question est difficile. Hein. C'est la pérennité des supports. Mais quand on prend des photos, les négatifs, c'était sympa, mais ça évolue au cours du temps et puis ça se dégrade. Les disques durs, les disquettes de l'époque se dégradent aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des sauvegardes récurrentes. Mais là, c'est peut-être Christophe qui va nous dire ça. Et à long terme se pose la sauvegarde d'une mémoire, d'une société, d'une mémoire collective, etc., d'une mémoire numérique. Et ça, ce sont des questions très importantes. Mais Christophe, peut-être des choses.
Ça pose la question, effectivement, de la durée de vie des supports. Hein. Déjà du format, de la capacité de relecture aussi, qui n'est pas simple, parce que la disquette 3 pouces et demi, on n'est plus capable de la lire aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup archivé là-dessus. Pardon. Le CD lui-même, le support optique, il a une durée de vie qui est aussi limitée dans le temps, qui n'est pas extrêmement longue. Voilà, donc bon, c'est un vrai problème. J'ai pas vraiment d'éléments sur cette question-là.
Je pourrais rajouter qu'on a quand même de la chance. C'est-à-dire que grosso modo, je prends un exemple simple. On est passé dans un univers numérique. Avant, quand il fallait sauvegarder de l'analogique, c'était très très compliqué. Là, maintenant, on peut copier la photo, on peut la copier 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Quoi qu'il arrive, elle ne perdra pas en qualité. Ça sera toujours la même. Le fichier, le texte, quoi qu'il arrive, ne perdra pas en qualité. Donc, c'est quand même un avantage. Après, il faut juste y penser. Il faut juste penser à, au fur et à mesure que les technologies évoluent, ben, que si une technologie qui est un petit peu dépassée, si on constate, par exemple, qu'un DVD... Ben finalement, il avait peut-être une durée de vie de 10 ans prévue initialement et on constate qu'au bout de 2-3 ans, il commence à poser des problèmes de lecture. Mais il faut repenser à le sauvegarder sur un nouveau support. Mais on a le moyen de le faire. Si on prend un vieil ouvrage qui est peut-être sauvegardé à la BNF, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait la possibilité facilement de sauvegarder exactement son contenu tel qu'il est et de pouvoir le conserver encore des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années. Donc, d'un certain côté, c'est une chance, moi, je trouve. Il faut juste, comme je dis, avoir des bonnes pratiques, entre guillemets, toujours pareil. Penser à sauvegarder, à faire évoluer ses sauvegardes, et pas considérer que c'est fait une fois pour toutes.
Je rajouterai un niveau... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Hein, Je rajouterai un niveau de précaution. Sauvegardez vos données dans des formats ouverts. Je ne parle plus des supports physiques, hein, disque dur, clé USB, tout ça. Je parle bien des formats de fichiers. Il y a des formats de fichiers propriétaires. Par exemple, un truc qu'on connaît tous, c'est les points doc pour les fichiers Word. Et il y a des formats de fichiers ouverts. Ne sauvegardez surtout pas vos données dans des formats propriétaires. Le jour où la société qui y a derrière coule ou simplement arrête de faire le logiciel, vous achetez un nouvel ordinateur, vous ne pouvez plus relire vos anciens fichiers. Alors que si vous sauvegardez vos données dans des formats ouverts, par exemple PDF pour des textes, par exemple JPEG pour des images ou des choses comme ça, vous n'aurez aucun problème, les programmes existeront toujours et en plus très probablement évolueront. Donc vous aurez toujours accès à vos propres fichiers. Parce qu'il y a l'accès matériel au fichier si le support est détruit ou abîmé, et il y a l'accès logiciel au fichier si le programme pour le lire n'existe plus. Donc je rajoute cette précaution-là. Tout ce qui n'est pas payant.
Ça marche pas.
Je voulais avoir un peu plus de renseignements sur le langage RSA. Donc, il me semble que c'est un système de cryptographie avec des nombres premiers. Donc, je voulais avoir plus d'informations, savoir quels sont les domaines d'usage et savoir si c'est utilisable par un particulier. Et si oui, avec quel logiciel ou comment ça marche.
Oui, il y a des nombres premiers, alors ça c'est très sympa, ça remet les mathématiques au devant de la scène. Et donc, si tu veux, j'ai des documents là-dessus, donc on pourra en parler tout à l'heure. Mais juste pour expliquer, le cryptage, il marche très très bien parce qu'on a pris deux nombres premiers très grands et on les a multipliés. Et donc ça donne un nouveau nombre. Et ce nombre, il est très très difficile à factoriser. Donc retrouver les deux nombres premiers très grands qu'on avait au départ, ben, c'est très très difficile. Et c'est pour ça que le fait de crypter marche bien. Voilà. Donc on a utilisé une propriété mathématique pour pouvoir crypter. Alors les nombres premiers, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est des nombres qui se divisent par eux-mêmes ou par 1. Voilà, donc ils sont très sympas.
C'est sûr que personne ne pourra le retrouver en fait. C'est...
Alors, moi...
Ou est-ce qu'un ordinateur très puissant
pourrait... Non, ce qui se passe c'est que on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut générer des nombres premiers très grands. Okay. Et après, faire tous les produits possibles et stocker dans un ordinateur tous les produits. Donc, ça met, il faut pas mal de place, mais si on a beaucoup d'argent, on peut faire ça. Ensuite, trouver des nombres premiers très grands, c'est pas évident quand même. Mais en maths, il y a des algorithmes probabilistes qui disent qu'il y a 95% de chances que ce nombre soit premier. Donc, ça, c'est incroyable. On ne dit pas que c'est 100%, ça va être 95%. Mais on va générer comme ça des nombres qui ils sont premiers. On a l'impression qu'ils sont premiers. On est presque sûr. Mais c'est avec cela qu'on va chiffrer. Alors, c'est un des problèmes techniques. C'est que on a regardé les clés RSA. Donc, il y a une société qui a vendu du cryptage RSA. Et on s'est aperçu dernièrement qu'il y avait 5% des clés qui étaient mauvaises. Bon, alors c'est dommage pour ceux qui les utilisaient. Mais voilà, il y a une marge d'erreur quand même. Ensuite, ce qu'il y a derrière, pour déchiffrer, on fait de l'arithmétique modulaire. Et donc, c'est vraiment de l'arithmétique. On va multiplier, mettre un nombre à la puissance, quelque chose. Et puis, on va prendre des modulos, c'est-à-dire on va regarder le reste de la division par quelque chose. Donc, c'est des maths, hein, c'est pénible. Mais ça marche très, très bien.
Je complète la réponse. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je complète la réponse. En informatique, souvent, le problème, ce n'est pas l'algorithme lui-même de chiffrement qui est utilisé. RSA, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre. Je prends un exemple dans la vie de tous les jours. Un algorithme, c'est une porte blindée. Sauf qu'on n'utilise pas, on n'achète pas une porte blindée tout seul, on achète une porte blindée avec le chambranle, avec l'installation de la porte, avec le mur qu'il y a autour, etc., etc. Et souvent, il y a des gens qui utilisent les portes blindées, donc qui viennent d'algorithmes tout à fait sûrs, mais qui vont monter ça sur un mur en placo et qui laissent la clé sous le paillasson. Vous comprenez qu'au niveau sécurité, ça pose quelques petits problèmes. Il y a une faille de sécurité qui a fait beaucoup parler d'elle il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Heartbleed. Donc mes collègues voient de quoi je parle. La faille de sécurité, en fait, n'était pas dans l'algorithme lui-même, mais était dans le programme qui s'appelle OpenSSL qu'on installait en tant qu'informaticien pour utiliser cet algorithme. L'algorithme est toujours sûr, c'est juste que le programme avait un petit bug. Et évidemment, l'exploitation de ce bug fait qu'on pouvait récupérer les mots de passe, ce qui est un peu gênant pour un programme de sécurité. Pour revenir à votre deuxième question, RSA, donc c'est l'acronyme des trois inventeurs de l'algorithme, Rivest, Shamir et Haldeman, qui ont ensuite fondé une société qui s'appelle RSA, qui porte leur nom, qui aujourd'hui vit de la est un prestataire de sécurité informatique, qui a utilisé le brevet qu'il y avait autour de cet algorithme, qui était valable pendant 20 ans. Aujourd'hui, l'algorithme est passé dans le domaine public, c'est-à-dire que tout le monde peut vous vendre un programme, peut vous sortir un programme qui utilise l'algorithme RSA, pas seulement la société RSA. Le problème, c'est que autant l'algorithme, autant la porte est bien blindée, autant le mur qu'il y a autour, il y en a qui sont pleins de trous. Il y en a qui sont pleins de trous parce qu'ils ont été mal écrits, il y en a qui sont pleins de trous volontairement parce qu'ils ont été écrits par des services de surveillance d'État et qui, par là même, en profitent pour vous filer un tuyau percé pour pouvoir vérifier tout ce que vous faites. Avec RSA, en plus, il y a un truc qui est absolument magique, c'est que pour éviter que les ordinateurs réussissent à calculer d'avance tous les nombres premiers et puissent déjouer ensuite nos messages, alors soit tout de suite, soit dans un an, dans deux ans, dans dix ans, quand la puissance des ordinateurs aura augmenté, il y a un truc qui est magique, c'est qu'il suffit d'augmenter la taille des clés pour reprendre à nouveau de l'avance au niveau sécurité. Quand les premiers algorithmes RSA sont sortis, les gens ont utilisé des clés de ce qu'on appelle de 360 bits de long, c'est-à-dire 2 puissance 360 possibilités. Et après, quand on a commencé à pouvoir calculer facilement des nombres de cette taille-là, ça fait quand même des chiffres, des nombres de 150 chiffres de long. On est passé sur des clés de 720 puis de 1024 bits de long. Aujourd'hui, on considère qu'il vaut mieux utiliser des clés de 4096 bits de long, c'est-à-dire 2 puissance. Oula, je ne sais même plus. 2 puissance. Pardon.
2 à la puissance quelque chose, c'est 10 à la puissance un tiers de l'exponent.
C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est des nombres de plus de 1000 chiffres de long. Donc c'est des nombres qu'on ne peut même pas manipuler avec un PC comme celui qu'on a chez nous.
Juste pour répondre peut-être aussi à une question, est-ce qu'on peut l'utiliser? Tu l'utilises tout le temps. Enfin, dès que tu as HTTPS, il y a du RSA derrière. Enfin, c'est... Après, il y a une deuxième... Enfin, c'est le logiciel dont tu parlais tout à l'heure. Il y a par exemple PGP qui permet de chiffrer principalement, qui est adapté plutôt pour le mail et qui utilise aussi RSA. Parmi les algorithmes de chiffrement, donc il y a RSA et on l'a dit, la taille des clés est gigantesque, ce qui fait que ce sont des algorithmes qui sont très très lents, mais vraiment très lents. Fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chiffrer énormément de données avec ces algorithmes-là. Donc ces algorithmes servent à deux aspects, mais on pourrait dire, je pourrais résumer, ils vont surtout à s'échanger une clé entre les deux parties, une clé après qu'on va garder secrète et qui va elle chiffrer les données avec un algorithme symétrique où on a besoin de clés qui sont beaucoup plus petites et qui sont beaucoup plus performantes. Je reviens juste sur le point au niveau de l'archivage. L'archivage et le chiffrement, comme on l'a dit, ce sont des questions qui sont aussi très importantes. Actuellement, par exemple, on voit l'évolution, on vient de vous faire l'évolution un petit peu. Au début, on chiffrait avec des clés 360 bits. On est passé à 4096. On est en train de passer à 4096. Il faut faire évoluer les documents qui ont été chiffrés à l'époque avec 360 bits. Je prends un exemple simple. De plus en plus, là, les actes notariés vont être dématérialisés. Qui dit acte notarié dématérialisé dit besoin d'une authentification, dit besoin d'une signature à la fin. Cette signature, c'est une procédure de chiffrement. Actuellement, si on utilise une clé de 4096 bits, OK, il n'y a pas de souci. Mais un acte notarié, il est prévu pour durer 100 ans, peut-être 200 ans. Il va falloir sûrement faire évoluer aussi, au fur et à mesure, donc de l'archivage, faire évoluer la clé et rechiffrer au fur et à mesure du temps pour que la validité du document soit toujours vérifiable.
Alors, pour finir, pour faire un peu peur à tout le monde, là, on a vu que le crypté, ça peut être intéressant pour les individus, mais il y a des gens qui l'utilisent aussi pour gagner de l'argent. Alors, il y a un nouveau virus là, qui s'appelle CryptoWall, qui permet, en fait, ça va... C'est le mur cryptographique. Ça va prendre tous les fichiers .doc, alors PowerPoint, EPS, etc., JPEG, et ça va commencer à chiffrer votre ordinateur. Okay ? Et puis, à un moment donné, il y a un message qui va apparaître. Votre ordinateur est entièrement chiffré. Et puis, il y a les gens qui disent, voilà, il faut $500 si vous voulez retrouver tous vos fichiers. Alors, ils utilisent des clés RSA de 2048. Bon, alors, ils sont limite. Hein,
c'est largement hors de portée de calcul d'un simple mortel comme moi. Hein. Voilà. C'est, je veux dire, malgré le fait que j'ai plusieurs serveurs dans ma société.
Et donc, le problème, c'est que si vous n'avez pas une copie de sauvegarde qui n'est pas cryptée, eh ben vous allez payer. Et visiblement, ils s'amusent aussi à faire payer en fonction des gens. Et donc, aux États-Unis, ils ont attaqué comme ça un commissariat et ils n'ont pas demandé $500, mais $5000. Voilà. Donc, vous voyez que la rançon est différente selon qui est devant, à qui appartient l'ordinateur. Et les antivirus arrivent très facilement à repérer CryptoWall. Mais si... Non, alors.
Non, justement, alors, CryptoWall est un virus qui est assez révélateur de l'espèce de course à l'armement dont on parlait tout à l'heure entre les virus et les antivirus. Imaginez, pour prendre une analogie, un antivirus, c'est le vigile qu'il y a à l'entrée. Il a la liste de tous les méchants. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, il va regarder sur la liste ou pas. À chaque fois qu'un programme arrive dans votre ordinateur, l'antivirus va contrôler que dans le code exécutable du programme, il n'y a pas un bout qui correspond à un des virus qu'il a sur sa liste. Voilà entre autres pourquoi un antivirus n'est intéressant que s'il est très régulièrement mis à jour. Parce que si vous avez la liste des virus d'il y a 2 ans, ça ne va pas être super efficace. Pour éviter ça, les virus ont inventé un truc génial, ils ont inventé le polymorphisme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver sous forme de programme de virus, ils vont disséminer des petits bouts de virus, il va se découper en petits morceaux, il va se cacher un peu partout dans le code source, comme ça il va pouvoir passer devant le vigile sans aucun problème, puisqu'il n'existe pas en tant que tel, et c'est seulement à l'intérieur de votre ordinateur où il va se réassembler. Comme l'antivirus ne surveille que ce qui rentre, vous aurez le virus, il a réussi à passer devant. Donc les éditeurs de virus ont inventé un truc génial pour contrer ça, ils ont inventé ce qu'on appelle les bacs à sable ou les machines virtuelles. C'est-à-dire qu'il va dire au programme qui arrive, vas-y, exécute-toi, je t'ai laissé passer. Le programme va croire qu'il a réussi à passer, il va s'exécuter, et là, l'antivirus va repérer si le virus se réassemble. CryptoWall introduit une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il détecte les machines virtuelles, il détecte les bacs à sable, et il refuse de s'exécuter s'il est dans un bac à sable. C'est tout à fait l'exemple de la course à l'armement qu'il y a entre les éditeurs de virus et les éditeurs d'antivirus. Alors je dis bien éditeur de virus parce qu'aujourd'hui c'est devenu une activité industrielle. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs spécialisés, des testeurs, ils ont des machines, ils ont des réseaux. Ça brasse un argent monumental. Et les gens qui exploitent les virus, c'est-à-dire qui bénéficient du travail fait par les virus, autrement dit la prise de contrôle d'un ordinateur, sont des clients qui payent aux éditeurs de virus le fait d'utiliser des machines infectées. Ils vont louer le réseau de machines infectées pour envoyer du spam, pour calculer des clés cryptographiques, pour faire des attaques par des lignes de service dont on parlera sûrement, etc., etc. Il y a une industrie aujourd'hui du virus. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'à peu près un quart du parc mondial d'ordinateurs est infecté, c'est-à-dire infecté dans le sens où ce qu'on appelle des PC zombies, c'est-à-dire pas zombies au sens Georges Romero, mais zombies au sens vaudou du terme, c'est-à-dire contrôlés à distance. Un ordinateur qui est infecté, ce qui intéresse les gens qui écrivent des virus, c'est pas les 2-3 fichiers qu'il y a sur votre ordinateur. C'est pas les photos de vos vacances ou des trucs comme ça. Ce qui les intéresse, c'est la puissance de calcul de votre ordinateur et la connexion que vous avez. Puisqu'ils vont solliciter votre ordinateur en arrière-plan, sans que vous le sachiez, vous allez juste constater un petit ralentissement pour faire tourner de façon du calcul massivement parallèle. Les plus grands réseaux de PC zombies comptent jusqu'à 400 000, 450 000 ordinateurs. Ça leur offre une puissance de calcul supérieure à celle des supercalculateurs de l'armée. Pour pas un rond.
Je voulais juste... moi, j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Concernant RSA, oui, je voulais... Juste pour peut-être ceux qui... On a eu une très belle analogie, enfin une très belle image du cadenas et de la clé. J'espère que tout le monde a compris aussi l'analogie avec RSA. Donc, Florent nous a dit qu'RSA était un algorithme qui était très lourd à mettre en œuvre et surtout qui prenait beaucoup de temps à décrypter. Donc voilà, on a l'analogie entre l'image qui a été faite du cadenas et de la clé. Hein, et donc, dans le cadre d'un échange crypté, un échange chiffré, la clé privée, la clé du cadenas, elle est échangée, en fait, celle qui permet d'ouvrir, elle est échangée par un algorithme de type RSA. Et ensuite... pour que justement les données puissent être décryptées beaucoup plus rapidement, on utilise un algorithme de type symétrique, donc comme cela a été expliqué.
Oui, alors moi c'est plus pour parler du hackage des comptes d'utilisateurs sur Internet. Quelles sont les principales arnaques à éviter pour se faire pirater son compte ?
Les techniques qui sont utilisées donc pour hacker, donc pour pirater des comptes sur Internet. Donc on pense tout de suite au phishing, donc le phishing ou l'hameçonnage, donc qui permet par des techniques de tromperie, en fait, de tromper l'utilisateur et de lui faire croire que soit c'est quelqu'un qui est autorisé à lui demander, ou soit par diverses autres techniques, donc de tromper l'utilisateur pour récupérer ses authentifiants, donc son login, son mot de passe. Donc jusqu'à pas mal de temps, ça se faisait sous forme de mail, donc de mail qu'on recevait, dans lequel on nous demandait simplement de répondre, en écrivant dans le mail, dans la réponse, son nom, son adresse mail, son mot de passe, et en nous promettant, par exemple, du quota supplémentaire sur notre boîte aux lettres, en nous promettant diverses choses. Ça se fait aussi beaucoup via un lien que l'on peut cliquer dans le mail. Donc là aussi, toujours être très prudent quand on a un lien dans un mail. Soit on est capable un peu d'analyser ce lien, de savoir vers quoi il nous mène, est-ce que c'est quelque chose qui est licite ou pas. Et via ce lien, on va remplir un petit formulaire avec trois champs qui nous demandent notre adresse mail, notre login, notre mot de passe. Voilà. Et là, effectivement, derrière ça, il y a des gens malveillants qui vont récupérer ces données-là. Hein, il faut bien savoir que quand on écrit un mot de passe, même si on voit que des ronds qui s'affichent ou des étoiles, la personne qui est derrière, bien sûr, va récupérer le contenu de ce qu'on a tapé et va être capable de l'exploiter sur les différents comptes. À partir du moment où on donne son adresse mail, après, c'est assez facile de retrouver potentiellement le serveur de mail, mais aussi tous les comptes. Donc ça, c'est un moyen que je vois comme ça. Là, c'est tiré de l'actualité aussi. Je pense que c'est des moyens relativement simples. C'est donc souvent les fournisseurs de services, lorsque vous avez un login, un mot de passe, vous proposent un moyen pour ne pas l'oublier, ou en tout cas pour le retrouver en cas d'oubli. Ce qu'on appelle une passe-phrase, ou en fait une question et une réponse, un challenge. Là aussi, il faut être très vigilant sur le genre de réponse qu'on va donner et le genre de question qu'on va poser. Hein, si on demande la couleur de sa voiture, si on demande, un jour de semaine ou un mois de l'année, le nombre de réponses est très limité. Donc quelqu'un qui peut essayer de répondre à ce challenge va peut-être retrouver très rapidement votre login ou votre mot de passe. Ça, c'est un autre moyen que je vois pour exploiter. Bon, et je pense à un cas concret il y a quelques temps dans l'actualité qui concernait une actrice américaine qui avait vu des photos d'elle diffusées sur le net, des photos privées. Et très clairement, la personne qui a fait ça, elle a été arrêtée et il a expliqué qu'il avait fait exactement la procédure que je viens de vous expliquer, donc tester des réponses à des challenges qui avaient été postés par des célébrités, qui avaient été mises en place sur des comptes de célébrités. Et il était comme ça rentré dans les boîtes aux lettres, il avait redirigé les mails vers sa boîte et il avait récupéré comme ça beaucoup d'informations privées. C'est un autre moyen que je vois, peut-être que...
Je vois un autre type de danger. Tout ce que tu dis est vrai. Je vois un autre type de danger. Il arrive, l'actualité nous a donné des exemples récents, que des pirates de haut vol arrivent à s'emparer de la base de données d'un site web. Sony s'est fait piquer sa base de données à nouveau en décembre 2014 et TF1 s'est fait piquer sa base de données client au début du mois. Le problème, c'est que ces deux cas-là, les deux responsables informatiques de ces boîtes-là ont commis une erreur absolument majeure, c'est que les mots de passe des utilisateurs étaient stockés en clair dans la base de données. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'immense majorité d'entre nous utilisons le même mot de passe sur tous les sites web. Donc on a beau être très très prudent, imaginons que j'ai un compte chez TF1, mon mot de passe est donc surtout retrouvé en clair en position de pirate. Généralement, aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'adresse mail comme identifiant pour se connecter sur tous les sites web. Donc, ces mots de passe-là ont été revendus. Ça se revend plutôt bien. Généralement, de l'ordre de 50 cents, $0.50 l'adresse mail, le couple adresse mail et les mots de passe. Et les gens qui ont acheté ça ont évidemment essayé massivement ces identifiants sur des sites comme eBay, sur Amazon, Facebook et tout ça. Si vous aviez le malheur d'avoir le même mot de passe sur ces deux sites web, ils avaient accès à votre Amazon, à votre eBay, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro de carte bleue était déjà identifié dedans. Le conseil que je vous donne, n'utilisez pas le même mot de passe sur tous les sites. C'est très très facile à faire. Il suffit par exemple de prendre un mot de passe et de rajouter derrière deux ou trois caractères qui dépendent du site sur lequel vous connectez. Sur eBay, rajoutez EB derrière votre mot de passe. Sur Facebook, rajoutez FB. Sur TF1, rajoutez TF1 derrière votre mot de passe. Peu importe. Cette petite variation de rien du tout vous sauvera les miches dans un cas comme celui que je viens d'expliquer. Parce que c'est évidemment pas un humain qui va les essayer un par un les mots de passe. C'est évidemment un programme. Et le programme ne va pas prendre le temps de tester toutes ces variations-là. Donc c'est vraiment une règle que je vous donne. N'utilisez jamais le même mot de passe partout. Un mot de passe par site. Et une petite variation comme ça suffit.
Juste une question, et puis après, on gardera les questions pour après, pour la deuxième partie.
Oui, vous avez fait une rapide allusion à Linux, qui, paraît-il, donc est protégé des virus par rapport à Windows. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions à ce sujet-là ?
L'immense majorité des virus utilisent des failles de sécurité connues. C'est-à-dire que les gens qui écrivent des virus ne sont pas forcément des virtuoses en informatique, comme on pourrait le penser, qui vont écrire un programme absolument génial qui va réussir à contourner les antivirus. La plupart du temps, ce sont des tâcherons de l'informatique qui utilisent des failles de sécurité connues. Aujourd'hui, le plus grand vecteur d'infection dans les virus... Alors, le deuxième, parce que le premier, c'est les clés USB, mais le deuxième, c'est Flash Player. Flash Player, c'est le petit ajout au navigateur web qui permet de voir des vidéos ou de jouer à des petits jeux sur Internet. Or, Flash Player publie, la société éditrice de Flash, Adobe, publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour Flash en disant on a trouvé telle vulnérabilité, on a corrigé la vulnérabilité. Et bien ça, c'est du pain béni pour quelqu'un pour qui veut écrire un virus. Puisqu'il n'a qu'à lire la vulnérabilité, c'est écrit. Si je fais ci, c'est ça, 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 j'arriverai à exécuter un programme sur l'ordinateur de quelqu'un qui se contente d'afficher une page web. Donc la parade pour ça consiste non pas à avoir un antivirus, c'est très utile les antivirus, mais surtout, et c'est encore plus important qu'un antivirus, à mettre à jour tous ces programmes. Je ne parle pas seulement de Windows, je ne parle pas seulement du navigateur web, je parle bien de tous les programmes installés. Le problème, c'est que sur Windows, c'est très très pénible à faire, parce qu'il faut mettre à jour chaque programme un par un. Et on n'a souvent pas conscience de tous les programmes qui sont installés. Sur Linux, c'est centralisé. C'est-à-dire que tous les programmes se déclarent auprès de Linux, et il y a une seule commande à taper, et tout votre Linux est à jour. Et tous les programmes installés sont à jour aussi. Et si Linux est aussi sécurisé, c'est à cause de ça. Parce qu'il est très très facile à mettre à jour, et que sur Linux, l'immense majorité des gens sont à jour de partout. Donc les virus ne peuvent pas rentrer, on n'a pas besoin de s'encombrer d'un antivirus. Ça et aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'écrire un virus pour Windows qui est quand même 95% du parc installé. Mais malgré tout, à utilisation équivalente, la sécurité de Linux est infiniment meilleure à cause de ce système de mise à jour centralisé.
Bon, merci pour ces éclaircissements. Gardez vos questions pour la deuxième partie, s'il vous plaît.